canalisation en rude épreuve à Reims. Une artère du centre-ville a beaucoup fait parler d'elle ces dernières semaines. L'avenue Jean Jaurès, engloutie par des torrents d'eau à trois reprises le mois dernier.
Le plan hors sec a été déclenché dès ce matin, mobilisant toutes les ressources en hommes et en matériel de la région.
2 mètres d'eau, Nîmes est sous 2 mètres d'eau.
3 octobre 88. Tous les 20 heures, ouvrent avec les images du déluge qui s'est abattu sur Nîmes.
L'île couleur boue, les quais de Périgueux sous l'eau. Même spectacle au bord de la Dordogne.
En une nuit, il est tombé plus de 3 semaines de pluie sur Manille, conséquence du passage de la tempête tropicale Phung Mong. L'un des plus importants cours d'eau de la capitale des Philippines est sorti de son lit.
La Venise du Japon, la ville de Kurashiki, est littéralement sous les eaux après plusieurs jours d'intempéries.
Cinquième session de l'onde dilettante. Bonjour. Bonjour à Mathieu Dupérex.
Bonjour.
Bonjour à Alexis Pernet.
Bonjour.
Alors, l'onde dilettante numéro 5 est dédiée aujourd'hui peut-être à la catastrophe, à l'inondation qui a fait notre actualité récemment. Et pour illustrer cette catastrophe aujourd'hui avec des eaux, j'ai choisi trois eaux, on va dire trois eaux imaginaires, même si c'est toujours de l'âge de eaux. Donc nous allons commencer par une eau d'inondation, justement. Donc je vous présenterai juste après. Une deuxième eau dont on parlera, qui est une eau sale.
Don't drink, il y a marqué.
Oui, don't drink, tout à fait. Vous comprendrez pourquoi.
Donc c'est une eau sale américaine.
C'est, oui, car nous sommes dans un environnement européen, voire international, à la cuisine de Négropolis. Et une troisième eau, qui pourrait être une eau de congélateur de Négropolis. Alors, pour démarrer, nous allons démarrer avec cette eau d'inondation. Cette eau d'inondation, c'est une eau, il faut s'imaginer, les îles Fidji, la vallée de Pédourès, du côté de la Haute-Ariège, l'eau pure, donc elle s'appelle l'eau pure. Il faut imaginer également Saint-Blaise, dont on avait goûté les eaux en début de semaine. Et toutes ces eaux se sont réunies pour dévaler les pentes et affoler les populations en détruisant et en emportant les voitures et autres objets de nos civilisations. Je vous propose une dégustation de ces eaux débordantes.
Merci.
Qui doit déborder,
pas trop, pas trop.
Qui doit déborder un petit peu, bien entendu.
Bon, j'ai déjà le... C'est plus qu'une métaphore. Hein.
Elle n'a pas débordé. Toujours pas.
Elle est à la limite du débordement. On va voir si les talents de dégustation de Alexis.
Non, mais ce qui est important, c'est ça. Il faut qu'elle déborde. Voilà. C'est-à-dire que si c'était intéressant sur le quand tu as versé la quand tu as rempli le verre de Mathieu. Je note que c'était plus intéressant sur le verre de Mathieu que sur le mien, parce que le verre de Mathieu a débordé.
Il est comme ça, il est toujours regardé les assiettes des autres.
Et il n'a pas débordé de façon circulaire, de façon. Il a débordé par le point forcément le plus bas. C'est-à-dire que même sur cette table qui nous semble horizontale, sur ce verre qui nous semble correctement conformé à un modèle identique à d'autres, à 100 000 autres, eh bien, il y a un point bas. Et ce point bas, l'eau, voilà, non pas la choisie intentionnellement, mais même sur des six petits objets, des six petits fragments d'un bassin versant, on a rétabli un écoulement. C'est merveilleux. Nous sommes une partie du bassin versant, là, sur ce sol en béton, sur cette table avec ces verres. Nous restons une partie du bassin versant.
On goûte ?
On goûte.
On goûte. Ça sent un peu la Mirabelle.
Ça déborde plus.
En tout cas, On vient de résoudre un problème d'étiage.
On l'a rétabli dans son lit.
Là, c'est dans le lit. Donc,
Tout est sous contrôle, Mathieu.
Tout est sous contrôle, bien endigué. Voilà. Et pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter d'une quelconque pression sur les parois du verre.
Voilà, donc, on aurait fait de bons ingénieurs des ponts et chaussées du 19e. On a rétabli la situation. Tu veux rejouer le rôle de l'inondation, de la crue d'après ?
Voilà, c'est
ou alors on en perd la mémoire. On attend.
On attend.
On attend. On attend. Et on oublie que l'eau peut remplir à nouveau le verre et déborder. Et là, le débordement arrive et nous surprend et nous chagrine, nous fâche parce que. Mais là, j'ai encore la mémoire. Vas-y, verse. Mais j'ai la mémoire de débordement de tout à l'heure. Il ne me surprend pas. Il ne me surprend pas. Je me suis déjà retiré. Je sais ce qui va arriver.
Non, moi je contiens. Je suis un bon ingénieur. À la différence de mon voisin, c'est contenu. Ça maintient. Voilà.
Oui, là tu es sur des niveaux
avec une
de crue.
Pompe à moustache.
Là, Mathieu est sur des niveaux de crues qu'on dit décennales, des crues de retour assez fréquentes. Tous les 10 ans, statistiquement, une crue qui va se produire en moyenne, qui peut arriver dans les 10 prochaines années. Celle qui nous inquiète, c'est la centennale, par exemple. C'est pour la Seine, la crue de 1910, qui, heureusement pour les Parisiens et grands Parisiens d'aujourd'hui, ne s'est pas reproduite. Et c'est celle qui engendrerait 45 milliards d'euros de dégâts si elle se reproduisait aujourd'hui. Mais là, voilà, chez Mathieu, non, là, c'est même de la petite crue annuelle. Très sympa, normal. L'eau est faite pour aussi s'étaler dans les espaces.
Mais sinon, je fais des investissements d'infrastructures.
Et donc là, Mathieu
je transfère dans un verre plus haut, ce qui fait que des digues bien tenues au risque éventuellement sismique. Donc voilà, je suis un bon ingénieur, je renforce mes digues. Voilà, je monte plus haut.
J'allais poser la question, si on met des digues, c'est justement pour qu'il n'y ait pas de crue, que les eaux ne partent pas à tout va dans le paysage.
Les digues peuvent être aussi conçues pour certains niveaux de crue et contenir, c'est le cas de la Loire, à Jargeau par exemple, des fusibles. C'est-à-dire qu'une digue maçonnée, un peu armée, un peu équipée, peut contenir une portion qui est en terre et qui, face à un certain niveau et une certaine pression de l'eau, va sauter et va conduire l'inondation dans un bras mort, un bras de décharge, un espace qui va essayer de réguler et d'absorber un trop-plein de la crue. Donc une digue n'est pas si étanche que ça. Elle peut être à dessein, abaissée, ouverte.
Les nouvelles digues qui sont construites en ce moment entre Tarascon et Arles, le long des voies de chemin de fer, donc le long du Rhône, ont prévu un quotient de submersion. C'est-à-dire que ce sont des digues qui ont été conçues et renforcées à cet endroit pour être submersibles et pour éviter une digue trop bien, trop solide peut être assez dangereuse en fait. Donc là, une digue submersible, c'est vraiment pour faciliter une sorte de vase d'expansion, une plaine dont on sait qu'elle va être inondée et dont on a prévenu les propriétaires afin que, c'est souvent des viticulteurs à cet endroit. Mais bon, ils seront dédommagés parce que, en fonction de ce degré de submersibilité de la digue qu'on a prévu sur leur terre. Mais c'est le grand débat. En fait, Élisée Reclus, quand il était aux États-Unis, il était en pension, il était tuteur dans une plantation de Louisiane. Et en fait, c'est là que sa vocation géographique est née, je crois. Parce qu'il a assisté au débat américain entre les ingénieurs qui défendaient les digues et les renforcements des digues, et puis les ingénieurs qui défendaient en fait les plaines inondables, les spillways. ces sortes de vases d'expansion et donc qui prônaient en fait une submersibilité plus grande et en sacrifiant bien sûr certaines plaines
qu'on peut aussi appeler des marées. Oui, donc on peut aussi jouer voilà sur un milieu qui est fait pour absorber une partie de ces trop pleins d'eau, tu vois, et qui vont avoir cette capacité d'absorption et de régulation de ces zones humides. Voilà.
Alors, tu parles de marais, mais quelle est la différence entre le marais et ce dont on entend parler souvent quand même, qui est la zone humide ? La zone humide contient le marais ? Il y a d'autres choses que les marais en zone humide ou... enfin...
Mais le terme de zone est un terme de planificateur. Et montre bien, d'ailleurs, si on l'applique à la question de l'eau, qu'à un moment, c'est poser la question de devoir délimiter ces espaces qui sont des espaces de régulation, d'absorption, de rétention et puis de relâchement progressif de l'eau. Et une grande partie des zones humides sont des marais, mais également des fonds d'étangs, des fossés, des réseaux de rigoles qui ne sont peut-être pas connectés entre eux de la même manière qu'un marais, qui est un réseau extrêmement dense. Mais voilà, on peut avoir des réseaux plus ouverts, plus larges, plus arborescents. Mais il semble que les marais restent malgré tout des pièces centrales de ces zones humides, bien que les marais en fait, puissent être des milieux très, très anthropisés, très aménagés, extrêmement structurés, avec des règles précises, et y compris des institutions qui veillent à leur entretien, à la gestion de l'eau, à leur bon écoulement, à leur rétention, à leur relâchement, à leur évacuation, à leur dessèchement, comme, selon un très vieux terme. Donc le marais est un milieu très, très régulé.
Toi qui travailles sur la notion de paysage, donc Alexis, quel est le rôle de l'inondation dans le paysage ? On a vu ces inondations, on a vu des images d'inondations. On a vu ce moment où, effectivement, il y a un flux d'eau important qui arrive et qui submerge tout et on ne voit plus la terre. Et puis, il y a eu le moment du reflux, ou, si on l'appelle comme ça, en tout cas le moment où l'eau est évacuée. Et là, on découvre ces paysages de terre, de champs détruits, où l'eau a tout emporté et a complètement détruit le paysage. Donc, est-ce que l'inondation affecte le grand paysage ? Et peut-être, qu'est-ce que le grand paysage ? Parce que je crois que tu travailles sur cette notion-là. On sait ce qu'est un paysage, mais peut-être tu pourras nous dire également ce qu'est un grand paysage.
En tout cas, dans ta question, il y a plusieurs parties. Il y a la partie de la catastrophe. Mais la catastrophe, l'eau qui déborde, ce n'est pas forcément la catastrophe. Hein, l'eau qui déborde n'est pas forcément une catastrophe. La catastrophe, elle intervient quand on a perdu la mémoire du risque et elle intervient quand on a remodifié, refaçonné complètement notre territoire en dépit d'un aléa qui, lui, peut intervenir à n'importe quand. Donc, voilà, à ce moment-là, en fait, on voit si le paysage fonctionne avec l'aléa ou est, au contraire, complètement ravagé et bouleversé par cet aléa. Et pour répondre à ta deuxième question, ça veut dire que le paysage déborde lui-même, en quelque sorte. En tout cas, pour le paysagiste, le paysage est une échelle de travail qui déborde largement de l'échelle assez traditionnelle du jardin, de la place, qui relève d'une architecture. Et quand on parle de grand paysage, c'est généralement pour marquer cet enjambement vers un paysage qui est presque à l'échelle du territoire, même si on n'a pas les outils pour agir comme un monarque souverain sur l'ensemble des composantes du paysage. Le paysagiste est quelqu'un qui, avant toute chose, je pense, décrit et comprend, décrypte le paysage, le fait partager, et tente en tout cas de le faire partager, et tente de rapprocher les acteurs, les gens qui le travaillent, les gens qui le façonnent, les gens qui l'habitent, de façon à prendre en charge une sorte de... C'est de grands mots, mais de destinée commune, en tout cas.
Moi, j'ajoute que la catastrophe, elle est fonction des cosmologies avec lesquelles on appréhende le débordement, parce que j'ai un ami, Johan Moreau, un anthropologue, qui me racontait que certains cours d'eau d'Amazonie ont une variation saisonnale, qu'en tout cas ça peut arriver, de plus de 7 mètres de niveau de la rivière, et que pourtant les villageois pêcheurs d'Amazonie qui sont en bord de cette rivière ne considèrent pas du tout que c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'ils ont une sorte d'adaptation. Alors, mais ce n'est pas une simple adaptation. Je pense que c'est lié aussi à une cosmologie animiste, perspectiviste, qui considère que la rivière peut avoir son régime de vie de manière à déborder, être grosse. Ils doivent composer avec. Ils considèrent qu'ils doivent composer avec ça. Mais ce n'est pas du tout thématisé comme une catastrophe.
Et ils sont très proches en ça des populations européennes de riveraines des marais qui vivent avec l'inondation et cette possibilité de la crue dans un milieu fait pour l'accueillir et qui ont positionné leur habitat en fonction des plus hauts niveaux de crue et qui savent aussi faire avec. On peut trouver des gens qui vous racontent dans les marais qu'ils sont nés pendant la crue les pieds dans l'eau en quelque sorte. Et qui en tire aussi une fierté, un élément d'identité.
Passons à la deuxième dégustation. Donc la deuxième dégustation, c'est une eau qui est là depuis quelques jours. C'est cette eau de Vittel. Je déplore de citer la marque, mais bon, c'est dans le sujet. Donc elle a été goûtée récemment. Et il se trouve qu'on a découvert il y a quelques années que même ces eaux minérales contenaient des résidus de plastique. On n'en a pas parlé dernièrement, mais elles contiennent toutes des résidus de plastique. Et en fait, à la fois, cette notion de marque et cette notion de plastique m'a fait penser à Michel Serres. Michel Serres a écrit ce livre qui s'appelle « Le malpropre », où il explique que comme le chien marque son territoire en faisant pipi à gauche et à droite autour de son territoire, l'être humain marque son territoire, prend possession de son territoire en le polluant. Et en le marquant, par exemple, avec des marques commerciales.
Alors, la marque, l'empreinte, de toute façon, oui, c'est vrai qu'elle est presque de façon homogène. Elle est répartie partout. Quoi. Si on parle des microplastiques dans l'eau, ça, c'est sûr qu'on en trouve partout.
On en trouve partout aujourd'hui. Donc, Mathieu, toi qui as travaillé, qui a cheminé en particulier ou notamment d'ailleurs, du côté du Rhône, et dans ce delta, il y a une ville industrielle qui s'appelle Gardanne, avec des boues rouges. C'est aussi donc une notion de pollution, une notion de propriété peut-être. Peut-être peux-tu nous en parler. Qu'on est dans le domaine de la catastrophe là également?
Alors Cousteau disait que non, parce que l'entreprise de Gardanne avait commandité un reportage de Cousteau pour montrer finalement que les boues rouges tirées du traitement de l'alumine, industrielle de l'alumine, étaient sans danger à partir du moment où elles restaient en repos dans la fosse de Cassidaigne, près de Cassis. Effectivement, tout ce qu'il. Il y a du cadmium, du plomb, il y a tout un ensemble de choses, certaines de nature radioactive, des pollutions très, très concentrées. Mais l'hypothèse était qu'il y avait un trou, vraiment un trou dans le plancher. Dans le plancher maritime et qu'on pouvait le combler à volonté, en fait, avec des rejets de production, sachant que pour une tonne d'aluminium, des aluminiums spéciaux que fabrique Gardanne depuis plus de 100 ans, il y avait 2 à 3 tonnes de rejets de bauxite. Du traitement de la bauxite. Alors les rejets, Gardanne, c'est quand même pas tout à fait proche de la mer, donc il y avait 60 km de pipeline qui plongeaient pour déposer ces rejets, et c'était des boues, c'était des boues extrêmement rouges. Et évidemment, il y a eu quelques campagnes de protestation qui, au bout de quelques décennies, ont fini quand même par déboucher par une mise à l'index de cette pratique. Alors du coup, ils se sont mis justement à faire des grands réservoirs de déchets de bauxite et puis à faire un processus de désification, quoi, d'allègement de la masse en séchant la matière et de compression. Et puis, le rejet maintenant qu'il y a, c'est une eau claire. Donc, ils continuent à faire des rejets. Mais ils estiment qu'après tous les filtres qu'ils utilisent, leurs rejets sont à 95% beaucoup plus propres qu'ils ne l'étaient quand ils déversaient les boues rouges. Et du coup, les boues sèches sont stockées en surface dans un massif forestier qui voisine Gardanne, qu'on appelle Manche-Gary. Et là, il y a toute une pratique de digue, justement, mais pour contenir la masse de déchets rouges. Très spectaculaire, hein. C'est une vision, c'est une vision rouge et froid quand on visite ce site. Et puis il est arrivé qu'une des digues d'ailleurs s'effondre, donc le site devient extrêmement plein de déchets, donc on n'en sort pas. Mais l'usine assure que maintenant ce qui est rejeté en mer est quasiment inoffensif. Donc voilà, ça c'est l'histoire de cette usine de Gardanne qui n'est pas terminée, mais on commence quand même à voir le crépuscule en fait de cet âge industriel à Gardanne. Voilà. Tout ça c'est dans le parc des Calanques.
Dans le parc naturel des Calanques.
C'est dans le parc naturel des Calanques que ça se passe.
Alors. Michel Serres, par rapport à cette notion de souillure, explique que voilà, la souillure est liée à la propriété et que donc, si on voudrait améliorer l'habitabilité de nos territoires, il faudrait peut-être sortir de cette notion de propriété pour renforcer le bien commun, peut-être en allant vers la location, en tout cas. Même s'il me semble quand même qu'il y a des locataires qui ne sont pas toujours... très soigneux avec leurs espaces. Mais Alexis, peut-être, par rapport à cette notion de bien commun et du paysage, comment tu vois cela ?
Le paysage, c'est souvent une intrication, une superposition de commun, une imbrication. C'est même une condition du commun, l'imbrication, d'après Ostrom. Et Le paysage, il est dans sa version un peu idéale, en fait, celle de ce projet commun. Il n'est pas uniquement façonné par des relations contractuelles, par des liens de propriété, de subordination. Il est idéalement façonné par des gens qui entendent en prendre soin ensemble, en fait. C'est une définition que donne, je crois, Magnaghi de l'habitant. C'est pas celui qui possède le lieu, mais c'est celui qui en prend soin. C'est le bon locataire, peut-être, mais il n'a même pas de contrat de location non plus. Il peut le squatter, le traverser, l'effleurer, même furtivement. Je pense souvent à cette activité paysagiste totalement bénigne et extraordinaire qu'on appelle un pique-nique. Et quand vous traversez... la France, pendant vos vacances, et que vous choisissez, il y a l'art du pique-nique. Il y a l'art de choisir un coin d'ombre avec une vue, d'y déployer une nappe. Et vous êtes chez quelqu'un en général. Alors vous vous installez pas dans le jardin parfaitement tondu d'une personne, sans quoi elle court appeler les flics. Mais en général, même si quand vous êtes dans un champ, sur le bordure d'un champ, d'un pré, en général, même si l'agriculteur passe, il ne vous dit rien. Si vous laissez pas vos boîtes de conserve ou vos bouteilles d'eau vides. Donc et c'est ça, moi je trouve cette imbrication, elle peut se lire là. Après, si tu habites un lieu et que tu donnes un coup de main à replanter une haie, à entretenir, à recéper des arbres, même si tu n'en es pas le propriétaire, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas plus mal. Et ça conduit même à, il me semble, et d'après les travaux de certains collègues chercheurs, aussi à une meilleure implication dans la vie civique, dans le territoire. C'est-à-dire que l'interaction fonctionnelle avec un paysage, au-delà de sa contemplation ou du fait de faire du jogging, par exemple, tous les matins sur un chemin, l'interaction crée un attachement plus fort et une implication derrière plus profonde dans le territoire.
Mathieu, tu as fait plusieurs œuvres sur le territoire, justement. Je me souviens que tu nous emmenais le long du périphérique toulousain pour le décrire, mais peut-être dans une forme de poésie, comme pour essayer d'intégrer cette souillure dans la poésie qui est censée montrer le beau. Alors c'était peut-être un sujet dont on avait parlé avec Marielle, oui. Mais quelle était ta...
Parce que la fonction paysagère, elle n'est pas donnée, livrée comme ça. C'est le paysage est une valeur construite culturellement. Donc, ériger une forme en forme paysagère, ce n'est pas anodin, mais en tout cas, c'est un acte culturel, un acte, j'ose pas dire civilisateur, parce que ce n'est pas forcément ça. Mais, donc, effectivement... Une infrastructure, bon, ça c'est assez banal, une infrastructure, l'infrastructure routière ou autoroutière, par exemple, de la France est entrée dans le paysage avec l'enquête photographique de la Datar. On a fait vraiment entrer dans ces infrastructures en leur donnant une certaine valeur paysagère. Parce que ben, quand il y a des photographies de basilicaux et d'autres, l'infrastructure se détache comme ayant une certaine autonomie, elle crée des compositions géographiques, elle crée des échelles, elle crée un horizon, donc tout un ensemble en fait de fonctions perspectives et symboliques qu'on va pouvoir placer sous le terme de paysage. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est parce que il y a une école américaine qui a qualifié ça de paysage altéré. Donc le paysage altéré, à savoir effectivement des parkings de supermarchés, des enseignes délabrées. Au bord d'une route, des mines désaffectées, des décharges, Et ce paysage altéré a été construit en fait dans l'histoire de l'art assez récente, des années 70 en fait, 1965 en fait pour être exact, avec une exposition majeure. Mais construit comme on érige esthétiquement en fait une modification qui est pas une modification d'embellissement d'un territoire, d'un pays, mais qui est une fonction d'enlaidissement ou d'appauvrissement, et que dans cet appauvrissement on trouve cependant en fait une valeur esthétique.
Je pense qu'il y a aussi une altération, une autre altération, Mathieu, parce que beaucoup d'infrastructures, et très tôt, en réalité, dans l'histoire des infrastructures, portaient des intentions de composition, de mise en scène, de découverte des territoires et des paysages. Et cette fonction de composition et cette fonction intentionnelle en fait, de relation entre l'infrastructure et le paysage, c'est cette relation aussi qui s'est altérée dans l'après-guerre, au moment où à la fois des ingénieurs ont pris le contrôle sur la conception de ces ouvrages, mais aussi au moment où des architectes, des paysagistes se sont retirés de ce jeu et de cette exigence de composition des ouvrages. Mais quand on relit l'histoire des infrastructures routières, quand on fait ce qu'a fait Eric Alonso dans sa thèse assez magistrale, en fait, on se rend compte que l'intentionnalité paysagère, elle est, je dirais pas de tout temps, liée à la voie, mais elle l'a accompagné jusque très récemment. Et c'est vrai qu'après la Datar, il y a eu à nouveau une reprise, au moins pour le cas français, on a à nouveau rechargé d'intention la conception des infrastructures routières ou autoroutières. C'est-à-dire qu'on leur a demandé d'être des vecteurs de découverte du paysage en même temps qu'on leur demandait de se fondre ou de s'intégrer dans des grands paysages.
Mais pour revenir à l'altération, ce qui m'intéresse, si on revient un petit peu à l'eau quand même, dans les paysages de l'eau, des altérations qui peuvent paraître en fait insensibles, comme des variations de salinité de l'eau, d'équilibre en fait, de jeu de robinet entre l'eau douce et l'eau saumâtre ou l'eau salée. Va avoir en fait ces équilibres-là vont avoir, si on les modifie, vont avoir une incidence extrêmement forte sur les paysages, c'est-à-dire sur ce qui les compose, comme vous allez avoir une végétation halophile qui va particulièrement se développer, une autre végétation qui supporte beaucoup moins le sel, qui elle va disparaître, voire des arbres qui vont dessécher sur pied, et des fonctions et des usages aussi qui vont se métamorphoser. Des activités de pêche, des activités nautiques en tout cas, de l'ostréiculture par exemple, qui peut arriver dans un endroit où avant elle ne pouvait figurer, des zones aquatiques qui deviennent des frayères extrêmement riches et qui pourtant en fait sont le témoignage d'un fort déséquilibre des systèmes des terres intérieures. Et puis une salinité, par exemple, comme en Camargue, qui va remonter sur des dizaines de kilomètres à l'intérieur des terres, du delta, le sel remonte, ce qui incite à certaines cultures plutôt que d'autres, et donc à faire changer aussi le paysage agricole. Parce que tout type de plantation ne va pas être possible. Et en fait, l'énumération pourrait être immense. Et il n'en demeure pas moins qu'on est sur des schémas d'altération physico-chimique et tout ça qui pourrait paraître anodin au départ. Voilà. Mais c'est parce qu'il y a un désinvestissement aussi d'un certain soin au territoire que ça se produit. Et puis aussi parce que ces territoires se retrouvent malgré eux aux avant-postes, c'est pour ça que je les appelle des paysages sentinelles, aux avant-postes en fait, de tout ce qui se passe dans le réchauffement climatique, dans les boucles de rétroaction géochimique, dans la Camargue qui est irriguée par les eaux polluées du Rhône, tout ça a une incidence. Le fait que l'étang du Vacarès ne se siphonne plus et qu'il devient de plus en plus concentré en nitrate, bon, tout ça a une incidence sur ce que Alexis appelle le grand paysage.
Bon, je vous propose de passer à la troisième dégustation. Alors, elle est un petit peu imaginaire. Mathieu, tu veux que je vide là ou... Voilà. Je vais vous servir. Donc, c'est une eau de Négropolis, mais c'est une eau du... On va imaginer, je ne vais pas vous mentir. C'est une eau du congélateur de la cuisine de Négropolis. Pourquoi du congélateur de la cuisine de Négropolis ? Parce qu'on peut imaginer que dans quelques années, on n'aura plus de glaciers. Les glaciers disparaissent, en particulier dans les Pyrénées.
En tout cas, elle sent la glacière.
Et peut-être que les seuls glaciers qu'on pourra avoir, on pourrait penser aux glaciers simplement de ces personnes qui font des glaces, hein, bien entendu, mais on les aura dans nos congélateurs, les glaciers.
À Dubaï.
À Dubaï, notamment. Mais même chez nous, dans nos maisons, etc. Pourtant, le glacier, c'est important, à la fois en termes de paysage. Ça permet à l'eau douce de venir progressivement. On sait que ça fait vivre de nombreuses cultures toute l'année, que ce soit... je vais penser au Gers où j'habite, mais que ce soit sur l'Himalaya, dans ces zones où il y a d'énormes glaciers, On connaît les conséquences, enfin on peut déjà estimer les conséquences que la fonte des glaciers va avoir sur les conditions de vie des populations locales. Donc est-ce que demain, notre seul avenir pour ces glaciers, c'est de les conserver dans des congélateurs ?
Ah oui. Bah, je ne sais pas, on est dans un âge interglaciaire, donc je ne pense pas qu'il faille préjuger comme ça, mais là, il faudrait Jérôme hein, pour nous aider, hein, parce que Jérôme Gaillardet. Mais parce que bon, on n'est pas à l'abri hein, d'une nouvelle glaciation. Pourquoi pas? Je ne sais pas par quel cycle, à la faveur de quoi. Mais bon, le congélateur est une merveilleuse invention, ainsi que la climatisation, qui ont permis bah, de faire des pistes de ski indoor à Dubaï, ou bien qui ont permis tout simplement l'habitabilité de Los Angeles. Los Angeles est incompréhensible sans l'invention de la clim. Toutes ces villes dans le Nevada qui sont incompréhensibles s'il n'y avait d'une part l'acheminement du Colorado, l'acheminement hydrographique complètement délirant qui a été créé, mais aussi l'invention de la climatisation. Voilà.
Bon, je pense là tout de suite aux Tokyo Heat qui déplient leur jardin de pot, leur jardin de façade, y compris sur les climatiseurs à l'extérieur des maisons.
Comment ça se passe, ça ? Je ne comprends pas.
Ils réintègrent le climatiseur dans l'espace des jardins de pot qui sont organisés dans les rues. Le climatiseur externe, des caissons qui sont des jardins de rue, des jardins de façade, des jardins de petits, des micro-jardins concentrés dans des tout petits bacs, pots ornés de figurines qui vont être modifiés chaque jour, qui vont s'échanger d'une maison à une autre. Et qui prennent le pied de façade, les quelques centimètres au-delà de la porte et du seuil, qui fabriquent un seuil végétal aussi sur ces maisons, dans ces concentrations urbaines extrêmes, et qui grignotent aussi ces boîtiers extérieurs particulièrement affreux, mais que sont les climatiseurs.
Mais par ailleurs, ce qui est fou quand on va voir un glacier, c'est qu'il n'y a pas de blancheur, en fait. Ils sont constellés de trous noirs, parce qu'il y a le carbone suie qui se dépose sur le glacier, puis qui fait des bassines. Et comme tu disais tout à l'heure, bah, l'eau, elle va chercher son chemin. Donc le carbone suie se réunit et fait des sortes de bassines vraiment toutes noires. Donc il est parsemé de taches, quoi, le glacier d'Alèche ou plein d'autres. Quoi. Ce sont... C'est très, très... Bon, on n'a pas la blancheur pristinienne que nous désirions boire dans notre verre. Donc, parce que, bon, du point de vue spéculatif, ça pourrait être intéressant de savoir combien coûtera la bouteille du dernier glacier, quoi, la bouteille d'eau qui sera extraite de la dernière fonte de glacier. Je ne sais pas...
Bon, ben on est parti des deltas, des zones humides, des marais, donc qui sont généralement un peu au bout des bassins versants. Et puis, on est déjà remonté là sur les crêtes.
Sur les crêtes des montagnes, oui.
Sur les crêtes des montagnes. Tu nous as fait voyager.
Oui.
Et en même temps... Mais ça, par contre, moins. Cette eau de congélateur, là...
C'est parce que la symbolique est trop forte. Pourtant, parce que locales. Honnêtement, c'est l'eau du robinet de Négropolis que vous avez.
C'est un sale coup de prendre l'eau locale pour lui faire ce coup-là, quand même.
Ouais. Peut-être que quand même on peut rendre hommage. Alors, on a vu là en circulant dans le territoire un certain nombre de réservoirs, de châteaux d'eau destinés à cette eau potable et distribués par un syndicat des eaux de la région de Négropolis. C'est intéressant d'ailleurs que dans les années 50, quand ces réseaux d'adduction d'eau se mettent en place, on fasse appel à ce terme de région, parce qu'on est avant la régionalisation, avant ces régions fonctionnelles qui sont aujourd'hui ces grandes régions, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Et à ce moment-là, le terme de région a encore finalement ce sens qui n'est pas politique et administratif, mais qui est celui d'une région naturelle. Et c'est la région aussi qu'on peut équiper à partir de champs captants, de zones de prélèvement et puis d'un système de distribution qui concerne une communauté humaine finalement encore assez rassemblée et assez solidaire. Alors est-ce qu'après ce syndicat disparaît au profit d'une privatisation et est-ce qu'après la collectivité choisit de le réintégrer en régie ? Je n'en connais pas l'histoire. C'est important de se rappeler ces notions-là parce que ce monsieur qui vivait là-haut à côté de ce château d'eau, on pourrait penser qu'il était tout seul, un monsieur de 82 ans qui vivait à côté d'un château d'eau, là dans les collines au-dessus de Nègrepelisse, et nous racontait qu'avant l'arrivée de l'eau, son puits donnait péniblement 50 litres d'eau par jour. Et ces 50 litres d'eau, il fallait aller les puiser. Et lui se souvenait encore de 1955 à 2021, ça fait un peu de temps, mais il se souvenait encore parfaitement, nettement, à la fois de ce travail, de cette rareté, et puis de ce moment un peu salvateur de la connexion au réseau. Même si paradoxalement, bien que tout proche du château d'eau, il a été un des derniers qui a été raccordé au réseau.
Mais est-ce que pour revenir à la catastrophe, est-ce que la catastrophe pourrait arriver à Nègrepelisse ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une inondation ? Peut-être Alexis, parce que tu as fait un itinéraire autour de Nègrepelisse, il me semble.
Mais on vient de vivre 5 jours merveilleux. Je voudrais pas qu'on termine sur cette perspective. Et c'est vrai qu'on a démarré sur les reportages, sur les sons, sur les terribles. Mais la catastrophe, elle est aussi très diffuse. C'est-à-dire qu'on en fait toujours appel à elle dans un futur proche, lointain, fictif ou pas. Et puis on a parlé de ces polluants plastiques, on a parlé de ces contaminations diffuses, invisibles. Et la catastrophe, elle est déjà là. En fait, on vit et on l'absorbe. Et tu viens, tu nous l'as fait boire pendant une heure, et on la vit en fait quotidiennement. Alors peut-être que pour la vivre mieux, on doit l'oublier et la nier et l'occulter.
Et boire du vin.
Et boire du vin, mais alors, d'accord, Mathieu, on ouvre une bouteille tout de suite après. Mais voilà, il est possible malgré tout de décrire. Enfin, je crois vraiment à la puissance de la description, de la mesure, de l'objectivation de ces composants, de ces polluants, mais aussi de cette histoire des réseaux dont qu'on vient d'évoquer. Je crois qu'il y a vraiment un enjeu à remettre en acte, en langage, en écrit, en parole, en récit, à la fois ces pollutions, mais aussi ces services publics, ces ressources, ces organisations humaines, souvent mal connues, négligées, peu valorisées, que sont ces gens qui vont passer leur vie à raccorder des tuyaux, à reboucher, déboucher les trous. C'est eux qui donnent aussi cette dimension organique et commune à ce territoire. Donc, plutôt que de parler de catastrophe, on va trinquer plutôt à eux. Et à vous.
Santé.
Merci Alexis Pernet, merci Mathieu Dupérex, pour cette 5e dégustation donc qui clôt la série des dégustations d'eau, qui ont donné lieu donc à des dialogues d'eau également. Merci au public. Et si vous voulez venir déguster, bien entendu, comme chaque jour, c'est avec plaisir.